Les GEM, groupes d'entraide mutuelle, des associations issues de la loi de 2005 qui reconnaît le handicap psychique. Des lieux de vie et d'échange surtout pour tous leurs membres, qui trouvent ici chaleur et convivialité.
Et puis bon, on vient retrouver, on vient trouver les autres, le bonheur de parler, le bonheur de se confier.
Rompre l'isolement, retrouver le goût des rencontres et du partage à travers des moments simples. C'est la philosophie des GEM. Et visiblement, ça marche.
Puis bon, j'ai dit, bah ici, c'est ma seconde maison.
Moi, je sors, je vois du monde et puis moi, ça me fait du bien. Au lieu de rester à la maison toute seule, broyer du noir, et ben ici, ben non. On s'entraide, on fait de la couture, on fait de tout, quoi. On se sent pas en train d'être jugé, on est comme on est, quoi. C'est ça qui est bien.
Voilà, de retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Rosalie Kaufmann. Donc on l'a vu, ton projet t'a amené à rencontrer les usagers, usagères du groupe d'entraide mutuelle, le Trait d'Union à Gaillac. Comment t'es arrivé jusqu'au Trait d'Union ?
Voilà, je connaissais l'existence des GEM parce que j'y avais déjà été. J'ai cherché le GEM le plus proche de chez moi. Donc moi j'habite à Salvagnac et le GEM à côté de chez moi, il est à Gaillac. Et je leur ai écrit. En leur faisant part de mon projet. À la base, en plus, comme ce projet était à la base une fiction et qui se transformait petit à petit en documentaire.
Mais est-ce que la fiction ne te permettait pas de mettre un peu à distance
Bah, moi, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, c'est mon premier documentaire. En fait. Je l'appelle pièce sonore parce qu'il mélange le côté fiction et le côté documentaire.
Ça te protégeait un peu, j'imagine, de commencer par la fiction
Bah, en tout cas, c'est comment moi, je pouvais parler de moi. Ouais. Et c'est ma manière de parler de moi. Certaines pudeurs, c'est plus facile.
Ouais.
Du coup, voilà, j'ai écrit au GEM. Et m'ont accueilli très rapidement. Et du coup, j'ai été les voir et puis j'ai présenté le projet aux usagers, aux usagères. Voilà, ça fonctionne au volontariat et il y a quelques personnes qui ont été d'accord pour me parler, pour parler au micro. Bah, c'était très touchant comment ils sont livrés, en fait. Mais autant mes proches que les membres du GEM, mais les membres du GEM, je ne les connaissais pas, pour le coup. Ils se sont livrés vraiment... Ils ont été très généreux, quoi. Et notamment dans leur expertise, leur expérience. Et...
Quand t'enregistrais, tu te situais où par rapport à EL, en fait ? Est-ce que le micro te permet pas d'être moins impliqué ? Que t'as trouvé ta juste place, toi aussi, pendant l'interview, toi, la prise de son pendant l'interview ?
Moi, directement, je leur ai raconté le projet, je leur ai expliqué que ça venait voilà, de cette histoire de moi qui me pose des questions par rapport à mon vécu. Et je les ai impliqués aussi pour m'amener des réponses et de partager en leur disant, bah, en fait, je pense que partager des vécus, ça permet de parler de ça, ça ouvre des choses. Et ils ont été très, très réceptifs à ça. Et moi, j'étais très étonnée parce que, comme je dis, c'est mon premier documentaire. J'ai toujours eu très, très peur de faire du documentaire pour cette question de qu'est-ce que je vais faire avec la parole des gens. Et là, il y a un truc très assumé dans ce projet. Comment dire, on ne situe pas vraiment qui parle, je mélange. Et ça a été dit, que ça a été, je leur ai expliqué vraiment le projet. Mais c'est marrant parce qu'avant ça, j'avais fait des tentatives d'autres documentaires sur d'autres sujets et les gens ne s'ouvraient pas comme ça. Et quand j'ai trouvé... ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je comprends ce que je veux faire quand j'écris, pourquoi j'écris ça, pourquoi j'ai envie de parler des ruminations mentales et ce que je cherche. En fait, je cherche à comprendre ce qui m'arrive. Et au moment où j'arrive avec juste cette posture-là de moi, je veux comprendre un peu ça et de voir si vous aussi, vous vivez ça et qu'est-ce que vous faites avec ça. Comment on fait avec ça, en fait. C'est un peu la démarche du projet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on en parle et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et bien, ça ouvre. Tout s'ouvre. Et la posture-là, elle est limpide, en fait.
Quand tu parles de comprendre, c'est comprendre toi en tant que personne concernée, pas toi en tant que professionnel qui travaille sur un sujet quelconque. Je pense que les gens à qui tu demandes, à qui tu t'adresses, le perçoivent aussi. Je pense vraiment qu'il y a ce truc de sensibilité mutuelle, je ne sais pas comment le traduire, mais quand ils te répondent à toi, ils ne te répondent pas à toi en tant que journaliste, entre guillemets, potentiel, quoi. Là, vous êtes limite dans un échange constructif autour d'un sujet qui vous concerne. Oui. Et donc là, comme tu dis, l'échange est possible, la confidence est possible et la confiance est possible.
J'ai eu 2-3 personnes qui étaient vraiment contentes de parler de ça, pour qui ça ouvrait aussi des choses pour pouvoir en parler. Des personnes qui aussi m'ont dit bah, « Ok, bah, moi je vais te donner les solutions que j'ai ». Et c'était une vraie générosité là, comme des pères aidants, en fait, c'est ça. Mmh.
D'ailleurs, on va peut-être rappeler, donc les GEM, ce sont des lieux créés pour lutter contre l'isolement des personnes confrontées à la souffrance psychique, afin de reprendre confiance en soi, recréer des liens, participer à des activités collectives. Est-ce que tu penses, toi, que la parole collective peut casser certaines spirales mentales?
Bah, je sais pas, je peux pas avoir la prétention non plus. Encore une fois, il y a des situations où ça... ça suffit pas. Et puis chaque situation est particulière. Mais en tout cas, sortir de l'isolement, pouvoir parler, ne pas se sentir jugé, être dans des espaces où on peut échanger sur ce qu'on vit et on peut, par exemple, rester se sentir pas bien et se dire bah, « moi, je vais m'allonger dans le canapé, je vais passer la journée allongée dans le canapé » ou « moi, je vais juste faire ça » ou « bah, moi, là, j'ai envie de... » enfin, en fait, ces endroits où on peut être avec ce qu'on est et qu'il n'y a pas de pression, c'est important. Ça permet vraiment de vivre avec ces troubles.
Ce ne serait pas aussi le symbole d'un double isolement avec le côté ruralité?
Je ne sais pas je crois en réalité pas. C'est possible. Peut-être des gens ils trouvent ça. Après, moi, je pense que vivre en ville, on peut être très, très isolé en ville, en fait. Parce que, justement, être seul au milieu de plein de gens, ça peut être terrible. Et puis, en fait, Gaillac, c'est pas la ruralité.
Mmh. Ouais, c'est la capitale du Tarn.
Pour avoir discuté avec Laure, qui travaille là-bas, c'est vraiment leur démarche, c'est ça. C'est sortir de l'isolement et être avec des personnes qui peuvent vivre des situations similaires ou pas que. C'est ouvert. Au point que moi, ou n'importe qui peut y aller, est bienvenu, quoi. C'est bienvenu d'y aller, même si on n'est pas en souffrance psychique.
Il ne faut pas un dossier médical ou...
Non.
Non. Mais est-ce que tu penses que ces ruminations, c'est seulement une affaire individuelle? Ou alors, c'est le produit aussi de nos conditions sociales, quoi?
Ah bah moi, je pense que c'est énormément le produit aussi de nos conditions sociales. Voilà. C'est... Je pense ça, oui. Faire la part des choses entre ce qu'on vit intérieurement, nos traumatismes et la pression sociale, le poids du regard sociétal, c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué. On voit bien que quand, en période électorale, potentiellement les ruminations peuvent s'accentuer dans les moments là, en moment de guerre, les moments. Donc ça, c'est pour un peu des informations médiatiques, mais ça peut être des pressions au travail, ça peut être selon sa couleur de peau, son genre. Si on est valide, si on n'est pas valide, bah, en fait, on va vivre les choses différemment et ça peut accentuer toutes sortes de troubles ou même les générer. Après, chaque histoire est personnelle.
Enfin, j'ai l'impression que tu mets à distance, tu veux le placer un petit peu ailleurs. Tu es sur le constat de comment les gens font pour vivre avec ces ruminations. Par exemple, même nous, là, on ne parle pas vraiment de santé mentale. Je pense que malgré tout, c'est le sujet également. Comment on fait pour la santé mentale dans une société qui la nie, qui l'invisibilise et qui crée un modèle de winner.
Ah oui, oui, clairement. Ça, je... Clairement, c'est ça. Après, moi, c'est juste que je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas. Je pense qu'il y a un moment, moi, je ne suis pas... ma démarche, elle est naïve, quelque part. Et elle a cette naïveté-là. Et je ne peux pas prétendre... Il n'y a pas plus de prétention que ça. Et voilà, peut-être que demain, ça m'intéresserait d'aller voir des personnes qui ont travaillé autour de ces choses-là et d'autres personnes encore concernées. Mais c'est surtout que ouais, je ne peux pas mettre des mots que je ne connais pas, en fait.
C'est intéressant, parce que là... On parle de rumination et finalement, on manque de mots.
Il y a encore une recherche à continuer, en fait. Il y a une recherche à continuer. Autant d'aller voir les personnes qui travaillent autour de ces questions-là que d'aller voir aussi encore des personnes concernées qui... Ben, il y a des personnes qui travaillent autour de ces questions-là qui sont concernées aussi. C'est ça qui est...
La santé mentale, au départ, c'était prendre soin des gens. Et puis, au fur et à mesure des années, notamment en 2005, il y a un rapport de l'Union européenne qui dit avoir une population en bonne santé mentale, ça permettra de remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. Donc, en fait, la santé mentale n'est plus du tout une question de soins, mais c'est une question d'économie. Hein, et c'est ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire la mauvaise santé mentale coûte cher, etc. Donc, la santé mentale, c'est on va raisonner plutôt sur des coûts pour la société plutôt que sur des soins à des personnes malades.
Dans le montage final, c'est vrai qu'il y a des voix, des témoignages, mais également il y a d'autres sons qu'on entend. Il y a des aboiements, des bruits, des respirations. Je voulais savoir comment tu avais travaillé ces sons non humains. Peuvent être des bruits comme des parasites, en tout cas ces sons d'ambiance.
Bah déjà, tous ces sons, je les ai pris à côté de chez moi. Donc c'est soit dans ma maison, soit c'est dans les champs, aux alentours et tout ça. Mais il y avait vraiment quelque chose de, pour le coup, très situé, que je voulais vraiment travailler autour de ça, cet enfermement, ce côté de qui colle chez soi. Je les ai enregistrés. J'ai essayé quand même de faire des gros plans, donc ces sons ressortent, qui viennent nous envahir aussi. Après, j'ai travaillé les équalisations pour faire ressortir certaines tonalités que j'aimais. Il y a quand même un travail qui est assez musical. Moi, j'ai réfléchi à comment je voulais que les choses sonnent, en fait. Et après, il y a une volonté que même ces sons-là soient construits en forme de boucle, c'est-à-dire qu'ils reviennent. Ils reviennent comme dans un quotidien où encore ces chiens, encore cette chasse d'eau. La chasse d'eau revient beaucoup. À la fois, ces sons chantent, parce que j'avais envie que ça soit aussi comme des... J'ai voulu que la chasse d'eau chante, j'ai voulu que les chiens, que ça soit des voix qui s'expriment comme ça, mais voilà.
Est-ce que tu voulais aussi peut-être traduire ce qui se passait dans ta tête, c'est-à-dire quelque chose d'invisible, en tout cas, pour les gens autour de toi, par quelque chose de très physique, concret? Bah voilà, le son d'une chasse d'eau, bim, ça évoque quelque chose de plutôt concret. Est-ce que ouais, ça fait partie vraiment de cette approche-là
Oui, oui, c'était vraiment quelque chose de traduire un état comme ça, mental, et traduire aussi vers une chasse d'eau. Pour moi, c'est la présence de quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un. On n'est pas seul dans la maison, il y a quelqu'un. À chaque fois, c'est travailler un peu les présences, l'escalier qui grince. C'est il y a quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on fait, quand on est pas bien en train de ruminer et qu'il y a aussi des gens et qu'on n'a pas envie de les croiser et qu'en fait, voilà.
Enfin, toi, tu travailles le son. C'est pas un hasard, je pense. D'autant que même le mot boucle, par exemple, c'est un terme technique lié au son. On utilise des boucles. C'est étonnant que tu te retrouves à travailler cette matière-là qui te permet une nouvelle fois, de reconcrétiser quelque chose qui peut se passer peut-être en toi, quoi.
Mais peut-être. Moi, j'adore les boucles. C'est marrant quand tu m'as parlé de musique. Qu'est-ce que je... quand je mets Doom, quand je mets Qualcris, il y a aussi des musiciens, des rappeurs hip-hop qui bossent énormément aussi avec cette matière. Et moi, c'est ça qui me... ça me fait quelque chose, en fait. Ça me fait quelque chose, mais une boucle... aussi un pouvoir de la boucle, quoi. Enfin, quelque chose qui se répète et qu'on peut... Enfin, il y a des endroits où on peut répéter des choses pour que aussi ça se fasse. Mais là, je dérive. Là, on n'est plus dans mon projet. Et on n'est plus dans les ruminations mentales. Parce que les ruminations mentales, c'est quelque chose qui... C'est quand même assez pesant. D'écouter de la musique répétitive, c'est quelque chose qui me soulage, qui me fait du bien, que j'aime. Et du coup, j'ai travaillé ça, cette ambiguïté-là.
Parce que la boucle te permet aussi d'être dans un confort. Tu sais ce qui va se passer. Il n'y a pas de danger, survient pas l'inconnu. C'est aussi ça, ce qui est agréable dans les boucles ou les musiques répétitives. C'est qu'effectivement, c'est cocon, c'est cocoon, tu vois, c'est cocooning.
C'est comment ça fait repère.
Ouais,
et je pense que c'est aussi comment ce projet, comme je dis, il est très cathartique. Et c'était on se réconcilie. Comment on se réconcilie avec ça? Je pense que... c'est marrant, j'avais pas mis ces mots avant de venir là. Hein. Mais... le travail du son, comme je l'ai fait, c'était une réconciliation. J'ai cherché la douceur, en fait. Alors que les mots, je trouve que les témoignages, des fois, ils sont... Enfin, en tout cas, moi, il y a certains témoignages qui me font dresser les poils des bras. Et moi, j'ai voulu chercher cette douceur-là pour accompagner ça, accompagner ces témoignages.
Tu finis par une boucle. Même ton propre travail, en fait, cette pièce sonore se termine par une boucle.
Oui, alors... Après, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai cherché quand même à des boucles qui arrivent à évoluer. Et je pense que c'est ce que fait aussi Doom, c'est pour ça que j'adore Doom, c'est que ces boucles se répètent pas toujours pareil. Et il y a ça, et c'est comment on arrive à, des fois, aller un peu attraper autre chose. Et c'est cette recherche-là, manière sonore, on parle vraiment de manière sonore.
Ouais, bien sûr, mais c'est vivre avec la boucle, en fait, en la magnifiant, quoi. Mais t'arrives à en faire quelque chose De beau, peut-être de poétique, et d'y voir, toi en tout cas, une forme de beauté, de différence.
Oui, et puis de toute façon, la vie est une boucle. Enfin, je veux dire, les cycles des journées, les cycles des années. Enfin, je veux dire, mine de rien, cette forme-là, cette figure-là, elle est partout.
La vie est une boucle. Ouais, là, je pense, voilà, rideau, là, on peut pas... on ne pourra pas faire mieux.
Ou plutôt quoi, un cycle, peut-être.
Ouais. Et si quelqu'un écoutait Glouteron et qui se reconnaissait, en fait, dans ses spirales mentales, qu'est-ce que t'aimerais que cette écoute lui procure, lui fasse ressentir?
Bah, j'aimerais qu'il ne se sente pas seul. Ouais. J'aimerais qu'il ne se sente pas seul et... qu'il puisse se sentir la force d'en parler. Mais d'ailleurs, moi, ce que j'aime, c'est quand c'est de l'accompagner et que ça puisse qu'on puisse parler après.
Et alors, toi, te concernant, est-ce que mettre des voix et des sons sur ses pensées, ça t'a permis, en fait, de les faire un peu sortir de ta tête, de les domestiquer?
Clairement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Mais déjà, à partir du moment où j'ai trouvé le mot pour en parler, je te disais, rumination, même si c'est pas un terme parfait, qu'il y aurait plein de choses à en redire et tout ça, mais déjà, on avait un mot. Et après, s'il y a d'autres mots, bah, je suis preneuse, quoi. Enfin...
Moi, je pensais à mastication.
Ah ouais. Mais en tout cas, je cherche des personnes qui travaillent autour de ces sujets. Je sais pas quoi. Je sais pas par où chercher, là, je suis un peu...
Ouais, faut lancer un appel.
Je lance un appel.
Combien d'entendre Glouteron, la pièce sonore de Rosalie Kaufmann, un voyage dans les pensées qui tourne en boucle, peuplé de voix, de bruit et de respiration. Rosalie est avec nous pour en parler. Bonjour Rosalie.
Bonjour Germain.
Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos auditeurices?
Oui, bah alors, moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle La Disquette, qui est basé sur Toulouse. C'est un collectif où on fait de la création sonore et du documentaire sonore, mais aussi des fois un peu de la fiction et puis des objets plus hybrides. Et moi, du coup, je viens de terminer une pièce sonore qui s'appelle Glouteron, qui parle des ruminations mentales, et c'est mon premier documentaire, et puis je m'apprête à en faire d'autres, voilà.
Bonjour.
Bonjour.